La Cinémathèque de France Culture vous invite à découvrir la collection Écrans sans images. Des trésors radiophoniques, des enregistrements d'époque, numérisés et restaurés, un voyage dans le cinéma des années 40, à travers les scénarios et les voix des plus grands réalisateurs et comédiens, français et étrangers de l'après-guerre. Aujourd'hui, le polar américain. Gilda, de Charles Vidor, 1946. Gilda est le troisième des quatre films dans lesquels le cinéaste hongrois Charles Vidor dirige Rita Hayworth. C'est grâce à ce rôle qu'elle devient une actrice mythique, une vedette du cinéma américain. La réalisation de Charles Vidor, la photographie en noir et blanc de Rudolf Maté, la fameuse robe fourreau et les gants en satin noir, conçue par Jean-Louis Berthaud, costumier des stars, la chanson « Put the blame on me » contribue à l'immense succès de Gilda, consacré par la critique comme un chef-d'œuvre du film noir. Johnny Farrell, joueur professionnel, débarque à Buenos Aires, où il se lie d'amitié avec Balin Mutson, le propriétaire d'un casino dont il devient l'associé. À l'issue d'un voyage d'affaires, Balin revient, accompagné de celle qu'il vient d'épouser, Gilda, que par un incroyable hasard, Farrell connaît déjà.
L'écran sans image présente Gilda. De Charles Vidor. L'écran sans images, une émission de Ned Rival, réalisée par Sally Petit, avec Raoul Curé et présentée par Rita Hayworth.
Amis de l'écran sans images, bonsoir, ici Ned Rival. J'ai le très grand plaisir de céder ce soir le micro à Rita Hayworth, qui va elle-même vous dire quelques mots sur Gilda. Elle a évidemment beaucoup le trac, car c'est la première fois qu'elle va parler à notre micro en français. Mais elle sait que vous lui pardonnerez. À vous, Rita Hayworth.
Auditeurs de l'écran sans images, bonsoir. Ici Rita Hayworth. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter Gilda, dont vous allez entendre quelques scènes. Je souhaite que ce film vous plaise. C'est mon premier rôle dramatique, important, et pour une fois, je n'ai dans ce pas.
Merci mille fois, Rita Hayworth, de votre obligeance et de cette aimable présentation. Et maintenant, place à votre film, place à Gilda.
Le film commence par l'image en très gros plan de deux dés à jouer qui roulent. Les dés s'arrêtent. 9. Le coup est gagné. Le joueur qui a lancé les dés se lève et empoche l'argent, puis une voix se fait entendre et commence ainsi l'histoire.
Je m'appelle Johnny Farrell, et pour moi un dollar a toujours été un dollar dans tous les pays du monde. Je venais de débarquer en Argentine et je ne connaissais guère les mœurs des habitants. Mais par contre, je connaissais parfaitement les réactions des matelots américains quand ils perdent au jeu. Aussi, l'argent ramassé estimais-je préférable de m'éclipser.
Allez, donne-moi l'argent. Allez, vite.
Oh ! Je me retournais, mon assaillant était à terre, et près de moi se tenait mon sauveur. Un homme assez jeune, le visage impassible, impeccablement habillé, un homme étrange. Je le remerciais naturellement, puis...
Comment l'avez-vous gagné ?
Gagné quoi ?
Cet argent pour lequel vous seriez mort.
Au jeu.
Alors adieu.
Merci.
Il n'y a pas de quoi.
À l'occasion, je vous voudrais ça.
Vous me sauverez la vie.
Je parlais de la cigarette.
Avec votre chance, pourquoi n'allez-vous pas dans une vraie maison de jeu?
Les jeux ne sont pas autorisés à Buenos Aires.
C'est exact.
Ah oui, c'est sans doute comme chez nous.
Il y a un casino à une demi-heure d'ici. C'est l'autre côté de la ville. Voici une carte.
Merci.
Mais attention.
À quoi?
Ils ne vous laisseront pas jouer avec vos dés.
Tiens. Je n'aurais pas cru que ça se voyait.
Un homme qui fait sa chance lui-même reconnaît certains gestes. Et d'ailleurs, on ne vous laissera pas entrer sans cravate.
Naturellement, je vise une cravate et me rendis au cercle dès le lendemain. Suivant mon habitude, je forçais ma chance, lui donnant de temps à autre un petit coup de pouce. Il faut toujours aider la chance. Mais naturellement, je m'arrêtais à temps, ayant l'intuition de l'instant précis où ma chance allait m'abandonner. Je quittais la table en empochant mon gain quand...
Dites, monsieur, le directeur voudrait vous voir. Est-ce qu'il a une conversation agréable? Passez devant.
On ne peut qu'accepter une invitation aussi aimable. Dans le bureau directorial, je me retrouvais face à face avec mon sauveur de la veille.
Mon sauveur?
Je vous avais dit de ne pas apporter mon thé.
Oui, en effet. Vous m'avez eu, mon vieux, la nuit dernière. Je vous croyais un grand personnage et... quand vous n'étiez qu'un misérable directeur de tripots clandestins.
Je m'appelle Bernard Dodson.
Et moi, Johnny Farrell.
Je ne suis pas le directeur, je suis le propriétaire. Et je n'aime pas qu'on triche.
Mais il n'y a aucune table où l'on joue au déchet.
Non, ça, personne ne peut se faire autant d'argent qu'en jouant au 31.
J'ai eu des coups heureux.
Vous avez eu surtout des coupes heureuses.
C'est le fruit d'un long travail.
Je devrais vous faire jeter en prison. Mais comme malheureusement je vous ai sauvé la vie, je vous dois à certains égards.
Quand le cas se représentera, vous y regarderez sans doute à deux fois.
Sortez maintenant. Et ne revenez jamais.
Je vous aurais cru plus fort, vous êtes stupide.
Possible.
On m'a dit que vous étiez capable de frapper un homme qui a les mains derrière le dos. Ça ne se fait pas. Vous voyez, vous pourriez avoir deux amis. Vous n'avez pas idée à quel point je peux être obéissant et fidèle. Pour un salaire convenable.
Je voudrais être certain d'une chose. Aucune femme dans votre vie?
Alors, aucune, je vous le certifie.
Les femmes et le jeu, c'est le trop pour le cœur d'un homme.
C'est exactement ce que j'ai toujours pensé. Et j'ai toujours appliqué cette règle.
Donc vous avez dû l'appliquer.
Écoutez, M. Munson. Je suis venu au monde hier soir, juste avant de vous rencontrer. Je suis un nouveau-né qui a tout l'avenir devant lui. Cette solution est la meilleure.
Il me donna carte blanche et je fis rapidement mon chemin. Au début, je ne fis que regarder, j'étudiais le jeu, les joueurs, les caprices des uns, les réactions des autres. La guerre prit fin et peu après, mon patron me dit...
Je dois partir en voyage, Johnny. Sans doute pour un certain temps. Je vous charge de la direction du casino. C'est vous que j'ai choisi.
Pour mes loyaux services. J'aurai de l'augmentation?
Non, vous n'êtes pas à plaindre.
Le voyage de Munson fut de courte durée. Et un samedi, un samedi, j'attendais la foule du samedi soir. Un des boys vint me prévenir.
Farrell, M. Munson est là, il vient d'arriver. Il voudrait que vous alliez le voir sans tarder.
Merci.
Le patron était très en forme et jugeait de ma stupéfaction quand il m'apprit qu'il s'était marié pendant son bref voyage.
La parole, on dirait que vous avez pleuré.
De joie, oui, Johnny.
Ça ne vous va pas.
Vous allez savoir pourquoi.
Où est l'oiseau rare?
Comment savez-vous?
Comment je sais quoi?
Ah, vous ne savez rien. Venez. Vous allez voir, oiseau rare. Une voix de femme dans cette maison, c'est une surprise.
Ma stupéfaction fut plus grande encore quand je vis Gilda et pus la reconnaître. Je ne laissais rien paraître de ma surprise, tout au moins aux yeux de Munson, car Gilda, elle, le lisait sur mon visage. Le soir, enfin, je pus avoir une explication en tête-à-tête avec elle.
Vraiment, c'est effarant. Le monde est petit en Argentine autant qu'ailleurs.
Eh oui. Pourquoi l'as-tu épousé?
Parce qu'il ne me déplaît pas, il est sympathique.
Mais tu ne l'aimes pas.
Veux-tu répéter ce mot une fois, John?
Tu l'as épousé pour son argent.
Il se trouve qu'il en a.
Ta vie est assurée largement maintenant.
Il me semble que tu n'as rien à m'envier, la tienne aussi, grâce à lui.
J'étais en bas de l'échelle, il m'a tendu là pour m'aider à remonter.
N'y a-t-il pas là une bizarre coïncidence, John? Il m'est arrivé une histoire semblable. Alors?
Bonsoir, señorita. Señor, je suis le capitaine Delgado. Me donnez-vous la permission de danser avec cette dame?
Excusez-moi, señor.
Excusez-moi, c'est oui. Et avec plaisir.
Mais les caballeros...
Le caballero aurait pu avoir ce plaisir, mais il ne le veut pas.
Elle dansait avec des mines provocantes, attisant ma jalousie et ma haine. Je détestais cette femme qui avait gâché ma vie. Et il fallait que je la retrouve sur mon chemin. Manson ne se doutait de rien au point qu'il me confia sa femme. À partir de ce jour, Gilda tenta par tous les moyens de jeter la discorde entre son mari et moi. Et moi, je m'efforçais de dissimuler à Manson les incartades de Gilda qui flirtait outrageusement avec les premiers venus.
Pardonnez-moi, cette dame vous a-t-elle dit que son mari habitait là?
Oh, voici longtemps déjà, voyez-vous, que je prends les maris à toute petite dose. Et aujourd'hui, je suis complètement immunisé contre...
Suffit pour ce soir, mon vieux. Filet.
Alors quoi, ici aussi, le directeur?
J'ai dit filet.
Encore un mot et je...
Ou quoi?
Très bien. C'est joli de frapper un homme ivre.
Il n'avait qu'à ne pas boire pendant que j'étais en fonction.
En fonction?
Je croyais que j'étais au courant. Je suis chargé de veiller sur tout ce qui appartient au patron.
Ce qui est à lui est à toi.
Tu étais au cinéma ce soir, seul.
Tiens, viens. Veux-tu savoir si le film était intéressant?
Je m'en fiche. C'est ce que j'ai dit à Bernard et c'est ce que tu lui diras.
Tu oserais me faire mentir à mon mari?
Je vais t'apprendre quelque chose. Il ne t'a pas seulement acheté par caprice. Il t'aime vraiment.
Ça n'a rien d'extraordinaire.
As-tu l'intention de faire?
Je vais te le dire puisque tu y tiens. Je ferai exactement ce qui me plaira quand ça me plaira. J'ai été fidèle à un homme une fois et tu vois ce qui arrive. Je me suis juré une fois pour toutes...
Il ne s'agit pas de moi, mais de lui.
Menteur. Tu oses dire ça?
Prends garde, je te préviens. Fais donc ce qui te plaira. Mais à aucun prix, je ne veux qu'il se rende compte de quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, tu agiras comme bon te semblera. Tu partiras où tu voudras, avec qui tu voudras, mais où que tu sois, je te retrouverai et te ramènerai chez lui. Tu as compris? Tout à fait comme si... s'il s'agissait de son linge sale.
Tu n'as pas honte, Johnny. N'importe quel psychiatre te dirait que tes associations d'idées sont très révélatrices.
Quoi, qu'est-ce que tu racontes?
Je dis qu'un psychiatre pourrait en déduire bien des choses.
Tu as entendu ce que j'ai dit?
Oui, j'ai entendu. Tu voudrais me mettre à l'abri, m'emprisonner. Uniquement pour que Bernard soit tranquille. Tu diras cela à d'autres.
Manson m'avait accordé une confiance totale. C'est ainsi qu'il me révéla un jour quelles étaient ses véritables activités.
Êtes-vous capable de l'ouvrir maintenant?
Oui.
8 à gauche. 24 à droite, 2 à gauche. 18 à droite. Vous êtes le seul qui connaissiez la combinaison. Si quelque chose devait m'arriver, il y a des papiers dans ce coffre. Lisez-les et continuez à mener l'affaire.
Merci de penser à moi. Vous n'êtes pas uniquement à la tête d'une maison de jeu.
Savez-vous ce que c'est qu'un cartel, Johnny?
Je pense. Un trust.
Le monopole d'un produit. Il s'agit d'un cartel international.
Pas mal en effet. Le monopole de quoi?
Du tungstène. Cela vous impressionne?
Vous savez, ça ne me dit pas grand-chose. Je ne vois pas si cela vaut la peine de se faire tirer dessus pour le plaisir de le monopoliser.
L'homme qui peut contrôler l'extraction de cette matière a le contrôle du monde, Johnny.
Oh là, dites donc, le monde, ça me paraît pas facile.
Non, mais comme il est peuplé d'imbéciles...
J'avoue que pour une combinaison de ce genre, vous étiez tout à fait l'homme qu'il fallait.
Je crois que vous avez raison. Bon, maintenant descendons. Allons boire.
Peu après, je découvris que les Allemands étaient au fond les véritables maîtres de ce cartel et que Manson était parvenu, en profitant de leur défaite, à les évincer.
Monsieur Manson nous donne une grande réception ce soir et vous n'êtes pas invité.
Ça, c'est imbécile de partir.
Non.
C'est vous qui partirez.
Nous tenons à voir Monsieur Manson.
Je sais, vous me l'avez déjà dit. Annoncez-nous par téléphone. Compris?
Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Monsieur Manson, de Monsieur Farrell.
Certaines personnes ajoutent des accessoires à leur costume. Dans ma collection, j'ai justement deux adorables têtes de cochon. Si vous...
Inutile, oncle Pire. Ces messieurs se suffisent à eux-mêmes. Allô, Bernard? J'ai là deux charmants garçons à l'accent allemand. Ils tiennent à vous voir ce soir même. Oh, à propos, l'un d'eux tient un charmant joujou dans mon dos.
Dites-leur de venir me voir ici, dans une heure. Johnny, venez immédiatement. C'est bien entendu?
first I thought I was just dreaming it. I've been hearing her voice in my sleep for nights anyway. Then I realized.
When Mrs. O'Leary's car kicked the Latin in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me.
Mais cela n'allait pas sans lutte, et ces luttes aboutirent au suicide de Mansell. Il s'abattit avec son avion en plein océan. Chargé de l'exécution de son testament, je réunis ses associés et leur fis part de mon intention de poursuivre l'œuvre de Mansell.
Venez chez vous avec la certitude que rien n'a changé, rien. Je continuerai l'œuvre de M. Mansell. Alors, messieurs, pas d'objection.
Sur un point seulement. Je trouve dangereux et imprudent de laisser un homme seul la direction de l'organisation. Et j'estime qu'il serait préférable...
Vous connaissez le testament. Je suis le seul exécuteur. Aucune modification n'est possible. Mais Mme Manson est la seule locataire. Mme Manson n'est pas en état de discuter affaire. Cet événement l'a affectée très durement. Elle m'a chargé de représenter ses intérêts.
Nous avons le temps. Nous ne sommes pas pressés de repartir. Nous attendons que son état nous permette de le voir.
C'est inutile, messieurs. Puisque Mme Manson va devenir ma femme aujourd'hui.
Eh oui, j'épousais Gilda. Celle-ci qui, au fond, n'avait jamais cessé de m'aimer, accepta. Mais je pensais que le suicide de Manson avait eu pour cause principale la conduite de sa femme et je décidai de le venger. Gilda, heureuse tout d'abord, s'aperçut vite que je la tenais virtuellement prisonnière dans son appartement et que Buenos Aires était un cachot pour elle, où chacune de ses démarches était surveillée. En vain vint-elle un soir tenter de se justifier.
Tu n'as pas l'air brillant. Tu le sais. Tu devrais te reposer, tu en as grand besoin. Et l'existence que je mène en ce moment, pourrais-tu m'en donner la raison?
Si tu veux. Tu as eu jusqu'ici une vie très mouvementée, je tiens à ce que tu te reposes, car tu en as grand besoin. Tu peux ainsi méditer.
Et sur quoi?
Ça reste trop brutal de dire sur tes péchés?
Certainement.
Eh bien, je le dis.
Qu'est-ce qui arrive? Tu prêches le carême? Je te retrouve tel que tu as toujours été. En ce moment, tu veux prendre ta revanche. Hmm? Nous sommes de même force à ce petit jeu-là, Johnny.
C'est vrai.
C'est vrai, oui. Lorsque tu m'as quitté, n'ai-je pas pris une splendide revanche en épousant Bernard?
Oui, splendide, en effet. Cet homme est mort.
Mais j'en suis bien heureuse. Il était fou, Johnny. J'avais peur de lui constamment.
Ça se voyait.
Johnny, il n'y a jamais eu que toi dans ma vie, tu le sais bien. Tous ces excès dont tu m'accuses, c'était pour te rendre jaloux. Je te répète qu'il n'y a au monde que toi et moi.
Nous deux, personne d'autre.
Non, il n'y a personne.
Mais ton mari, qu'en fais-tu? Tu l'as oublié facilement, tu peux facilement en oublier quelques autres.
Mais il n'y a personne d'autre, Johnny.
Tu m'as dit toi-même. Tu m'as dit leur nom à tous, tu m'entends?
Je n'aurais jamais cru qu'une femme puisse avoir la malchance d'épouser deux fous dans sa vie.
En vain. Elle essaya de lutter contre moi, de m'attendrir, rien n'y fit. Je demeurai fidèle à mon stupide projet de vengeance. Alors elle s'enfuit à Montevideo, où elle gagna sa vie en chantant dans une boîte de nuit.
Thank you.
had the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, and shake that brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me, boy, put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on on me, boy, put the blame on me. Name did a dance called the Hitchy Coo. That's the same as Slew Magoo. Put the blame on me, boy, put the blame.
Je la fis suivre et ramener sous de vagues prétextes. C'est à cette date qu'un détective qui rôdait depuis longtemps dans la maison me découvrit la véritable portée des activités de Munson, et en même temps que Gilda n'avait jamais été ce qu'elle voulait paraître. Je courus la retrouver, mais à cet instant, Munson.
Je ne devais pas revenir si vite, mais il me faut ma femme.
Johnny!
La nuit de mon départ, vous m'avez cru disparu à jamais. J'avais tué un homme et jugé préférable de m'éloigner pendant un certain temps. Cette même nuit, je suis revenu chercher Gilda pour l'emmener avec moi. Je l'ai trouvée en tête à tête avec vous, Johnny. Je n'avais ni la liberté d'esprit ni le temps d'exprimer mon sentiment. Quand la police éteignit les débris de l'avion, j'avais déjà rejoint le canot qui m'attendait. J'avais sauté en parachute, vous n'avez pas vu. Vous n'aviez plus une vision très nette des choses. L'émotion, Johnny. J'ai eu l'intention de vous tuer avec ceci. C'eût été amusant, n'est-ce pas, de faire tuer l'un de mes amis par l'autre. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Puisque je dois tuer Gilda avec vous. Je vous avais prévenu que je... File d'ici tout de suite, oncle Pio. Vite!
Je suis un vieux policier, monsieur Farrell, et pourtant une histoire d'amour me trouble toujours. Je connais la combinaison de votre coffre, je ne sais pas où il se trouve.
Hein?
Le coffre, où est-il?
Dans sa chambre, contre le mur, derrière son portrait.
Merci. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette canne.
En effet. Il a été très imprudent à laisser entraîner une telle arme à portée de ma main.
Il ment. J'ai toujours dit que c'était un gentleman. Monsieur le policier, c'est moi qui étais.
C'est toi, c'est imbécile.
Moi. Monsieur le policier,
pourquoi mais... cet assaut de chevalerie? Ça n'avance à rien. J'ai toujours entendu dire qu'un homme ne mourait qu'une fois et que Monsieur Munson s'est suicidé il y a 3 mois. En outre, vous avez déjà entendu parler de la légitime défense.
Johnny, allons-nous-en. Tous les deux.
Les
L'écran sans images vient de vous présenter Gilda. Un film de Charles Vidor. L'écran sans images, une émission de Ned Rival réalisée par Sadi Petit avec Raoul Curé et présentée par Rita Hayworth.
Rita Hayworth.
It's only that I do what I love, and love what I do. Can't help the mad desire that's deep inside of you. You realize the fault isn't mine, that you are to blame. You want what you can't have, and you're all the same.
A chick a chick boom, chick boom. A chick a chick boom, chick boom. It's dangerous to presume with the Trinidad lady.
It's only that I do what I love, love what I do. Can't help the mad desire that's deep inside of you. You realize the fault isn't mine, that you are to blame. You want what you can't have, and you're all the same.
A chick a chick boom, chick boom. A chick a chick boom, chick boom. A chick a chick boom, chick boom. It's the Trinidad lady.
Vous écoutez la Cinémathèque de France Culture. Aujourd'hui, le polar américain. L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock, 1943. Hitchcock s'installe aux États-Unis dans les années 40. L'ombre d'un doute est son deuxième film chez Universal. Le film baigne dans le climat et le mode de vie américain, différent de ses films précédents réalisés en Angleterre. Il aurait dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait de son film préféré. C'est en tout cas l'un des seuls, avec Psychose, dans lequel le personnage principal, Charlie, est une figure négative. Charlie, traqué par la police, vient se réfugier chez sa sœur et sa nièce, qui portent le même prénom que lui. Dans la version radiophonique française, le prénom Charlie est remplacé par Camille. Quand sa nièce apprend qu'il est soupçonné d'être un criminel recherché, elle menace de le dénoncer. Michel Morgan et Jean-Pierre Aumont tiennent ici les rôles principaux, incarnés à l'écran par Joseph Cotten et Teresa Wright.
La voix de l'Amérique vous parle de Hollywood.
La Voix de l'Amérique vous présente aujourd'hui une adaptation radiophonique du film Universal Shadow of a Doubt, l'ombre d'un doute, avec Jean-Pierre Aumont et Michel Morgan, dont les rôles créés à l'écran par Joseph Cotten et Teresa Wright. Joseph Cotten et Teresa Wright, deux excellents acteurs de Broadway et de Hollywood, ont interprété avec émotion et intelligence cette étrange histoire d'amour et de meurtre, sous la direction magistrale d'Alfred Hitchcock. Et maintenant, Michel Morgan et Jean-Pierre Aumont dans L'ombre d'un doute.
Amen.
une valse? La valse de la veuve joyeuse. Reconnaissez-vous cette musique langoureuse qui évoque une heure exquise qui vous grise lentement? N'aviez-vous jamais entendu les accords profanes de cette valse au cours d'une cérémonie funèbre? Étrange, n'est-ce pas? Oui, c'est étrange qu'elle soit jouée maintenant, tandis que l'officiant procède à des obsèques. Je conçois votre stupéfaction. Mais moi qui sais pour qui et pourquoi cet air-là est joué, je ne puis l'entendre sans repenser aux événements qui ont précédé le drame. Ce sont les obsèques de l'oncle Camille, comme elle l'appelait. Elle à qui l'on avait à sa naissance donné le prénom de celui qu'elle idolâtrait. Que maintenant, elle pleure. Camille!
Laissez-moi.
C'est vous qui avez demandé que l'on joue la valse de la veuve joyeuse?
Laissez-moi.
Écoutez-moi, Camille, je veux vous aider, je sais la vérité.
Non, c'est pas vrai, non.
Si, Camille, mais n'ayez pas peur. Vous savez bien que je ne révélerai rien qui soit une offense à la mémoire de votre oncle. Mais vous seul pouvez me dire...
Non, pas ici, tout à l'heure. Il était si gai, si plein d'entrain, si amoureux de la vie. Il aimait le vent, les voyages, un air de valse. Je sais qu'il n'aurait jamais accepté rien de triste aujourd'hui pour ses adieux à notre monde.
Et l'accident, Camille? Dites-moi ce que vous savez de l'accident.
Il est tombé du train, c'est tout.
Non, Camille, c'est la vérité que je veux.
Non, non, je ne peux pas défendre mal.
Il le faut, Camille. Seule la vérité vous rendra à vous-même. Et vous le devez pour toute votre vie à venir. Parlez, Camille, parlez.
Cela a commencé à la fin d'un après-midi, sous l'invariable douceur du soleil californien parmi les orangers, la paisible existence d'alentour. Je ressentis ce jour-là, plus encore qu'à l'habitude, la monotonie de ma vie chez mes parents en Santa Rosa. Soudain, je m'entendis moi-même crier « Oh, j'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez !»
Tu en as assez de quoi, ma chérie?
Oh, maman, je n'en peux plus.
Tu n'en peux plus de quoi, Camille?
D'ici, de ce calme, de ce confort, de cette monotonie des jours, chacun semblable à l'autre.
Mais c'est le bonheur, cela, mon enfant.
Le bonheur. Pour vous, peut-être. Mais ça n'est pas la vie. Pas parce qu'elle doit être. Pas ce qu'elle m'a promis.
Alors, allons, calme-toi, Camille. Veux-tu que nous allions faire quelques pas ensemble?
Non. Oh, non. Cette route toute droite. Non, je ne veux plus la voir. Elle est à l'image de ma vie, ici. Toute droite, toute plate. Oh, si quelque chose pouvait m'arriver. Si quelqu'un pouvait venir. Mon oncle au secours. Mon oncle Camille. Vous seul pouvez m'aider. Venez. 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 Venez.
Nous avons un télégramme.
Oui? D'où?
De Phoenix, Arizona.
Oui, j'écoute.
Mademoiselle Camille Newton, Santa Rosa, Californie. Arriverait demain jeudi. Heureux de vous revoir tous. Tendresse, signé Oncle Camille.
Oncle Camille? Oh! Maman, papa! C'est l'oncle Camille, il sera là demain. Oh, je le savais, je le savais. Oh, il ne pouvait pas ne pas m'avoir entendu. Oh, je le savais, je le savais, je le savais. Et le lendemain, un peu avant l'heure du dîner, il était là, beau, élégant, avec son sourire franc. Comme je comprends que ma mère était folle de son jeune frère. Au dîner, il fut adorable.
Quelle jolie robe tu as, Camille.
N'est-ce pas qu'elle est jolie, mon oncle?
C'est toi qui l'as choisie?
Oh, voyons, mon oncle, vous ne vous souvenez pas?
Me souvenir de quoi?
C'est vous qui me l'avez envoyée pour ma fête.
Vraiment? Eh bien, ma chère Camille, je te félicite d'aller si bien à cette robe. Oh, mais j'oubliais. Ma chère sœur, ceci est pour toi.
Oh, Bernard, le rêve de ma vie. Moi, me fâcherais bien que je t'embrasse, fais un amour. Regarde, Camille.
Sont beaux.
Joe, ça c'est un petit souvenir pour toi. Je sais que tu en avais envie.
Un bracelet-montre? Mais tu ne pouvais pas me faire plus plaisir, mon cher beau-frère.
Tant mieux. Mais vous ne pensez pas que je n'attends rien de vous deux en échange?
Que veux-tu dire, Camille?
Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon chéri?
Une seconde tasse de café.
Farceur, va, tu m'as presque fait peur.
Viens, Joe, aide-moi à la cuisine.
Et maintenant, le cadeau pour ma petite Camille.
Oh, je ne veux rien, mon oncle. Avant votre arrivée, je croyais que je ne possédais rien, mais maintenant... Oh, maintenant, mon oncle. Non, ne me donnez rien, je vous en prie.
Mais pourquoi, voyons?
Oh, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer. Vous êtes là, maman est heureuse. J'ai le même nom que vous. Papa dit que je vous ressemble. C'est vrai, ça. Mais c'est bien plus qu'une simple ressemblance. Il ne faut rien gâcher. Il ne faut rien me donner, mon oncle.
Tu es une drôle de petite fille, Camille. En quoi ça pourrait-il gâcher quoi que ce soit?
Non, parce que nous ne sommes pas juste un oncle et une nièce. C'est quelque chose d'autre. Je ne sais pas, moi, je ne peux pas dire, mais... Je sais qu'il y a mille et mille choses que vous ne dites à personne, mais que moi, je devine. Que moi seule comprends. Comme un secret merveilleux.
Il n'y a pas de secret, ma petite Camille. Il n'y a qu'une petite fille sentimentale, imaginative, exaltée. Allons, donne-moi ta main.
Merci.
Eh bien, tu ne regardes pas?
Oh, je n'ai pas besoin de regarder quoi que ce soit que vous m'ayez donné. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde.
C'est pas seulement beau parce que je te l'ai donné, Camille. C'est beau aussi parce que c'est... Parce que c'est une très belle émeraude. Regarde-la.
Oh, oh, mon oncle. Oh, une bague avec quelque chose de gravé. Mes initiales.
Tes initiales.
Oh, mais ce ne sont pas mes initiales, mon oncle. T.S.
Hein? T.S. Oh, c'est le bijoutier qui a dû se tromper. Fais voir, rends-la-moi.
Oh, non, non, je la garde. Je l'aime comme elle est. Je suis sûre qu'elle a donné beaucoup de joie à quelqu'un d'autre avant. Elle m'en donnera aussi à moi. Juste comme elle est. Je ne m'en séparerai jamais. Jamais. Quelquefois, on a un air dans la tête, ça vous poursuit, on ne sait pas ce que c'est.
C'est une valse, mon enfant.
Oh, maman, je sais bien que c'est une valse, mais laquelle? Si je savais ce que c'est, je crois que je serais moins obsédée. Vous savez, mon oncle, c'est drôle. Souvent, j'ai un air dans la tête comme ça, et c'est parce que quelqu'un d'autre, là aussi, dans la sienne en même temps. Je suis sûre que ça se transmet comme certaines pensées quand on les pense très fort. Camille, vous savez ce que c'est que cet air-là?
Oui, c'est rêve de valse.
Oh, mais non, mon oncle, non. Oh, je sais, j'ai trouvé. C'est la veuve joyeuse.
Ah, tiens, assez, ben, tu te tairas. À la fin, je ne suis pas venu ici pour t'entendre jacasser.
Oh, mon oncle, je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous ennuyer. Je vous laisse. Il est tard.
Ma petite Camille, tu es gentille. Moi, je suis stupide. Mais je te promets, je ne me mettrai plus jamais en colère. Plus jamais.
Oh, merci, mon oncle. Oh, je suis si heureuse. Je vais si bien dormir. Bonsoir, mon oncle.
Bonsoir, ma jolie nièce.
Non, Camille, ne m'approchez pas.
Une carafe d'eau, mon oncle, au cas où vous auriez soif cette nuit.
Merci, Camille, merci, c'est gentil. C'est gentil d'y avoir pensé.
Mon oncle, papa demande si vous avez fini avec le journal. Il ne peut jamais s'endormir avant de l'avoir lu.
Oh, pour ce qu'il y a dedans.
Oh, vous savez, c'est plutôt une habitude.
C'est que je ne l'ai pas encore lu.
Oh, mon oncle, puisque vous dites qu'il n'y a rien d'intéressant dedans.
Eh bien, j'irai lui porter moi-même dans quelques minutes.
Je crois que j'ai découvert un secret.
Un secret?
Oui. Vous vous rappelez, je vous ai dit que vous ne pourriez jamais rien me cacher. Eh bien, je suis sûre qu'il y a quelque chose sur vous dans le journal de ce soir.
Sur moi? Dans ce journal? Mais tu es folle, Camille. Qu'est-ce qui te fait penser que l'éclair de Santa Rosa peut s'intéresser à ton oncle?
Pourquoi ça, je ne sais pas, mais vous en avez déchiré une page. Là, dans la poche de votre veston. Je la vois qui dépasse.
Tu te passes à battre.
Oh, vous tordez le poignet, mon oncle.
Pardon, ma petite Camille, je ne voulais pas te faire mal. Je plaisantais.
Dites, Dites-moi, pourquoi vous cachez cette page-là?
C'est curieux, c'est une histoire sur quelqu'un que je connais. Des mensonges.
Oh, faites-moi voir, mon oncle.
Je t'ai déjà dit de me laisser en paix. Tu as compris? Va-t'en, va-t'en. Va-t'en.
Je fus me réveiller le lendemain matin par la visite inattendue de deux journalistes du grand magazine La Vie Américaine.
Nous faisons une enquête et un reportage photographique sur la famille américaine. Et nous avons pensé que vous en étiez le type parfait.
Papa, maman et moi-même, nous étions surexcités. Pensez-nous être interviewés, comme ils disent. Ce fut moi qui les guidais dans la maison, tandis que maman mettait de l'ordre dans la cuisine et que papa, très fièrement, était allé sortir notre petite voiture du garage.
Ravissante petite maison, mademoiselle.
Oh, nous allons remplacer tous les papiers cet été. Un papier uni, c'est plus moderne.
Réponse typique, je la note. Cette porte, c'est quoi?
C'est ma chambre. Mais mon oncle l'occupe pour le moment.
Votre oncle?
Oui, il est arrivé hier. Il dort encore. Faut pas le déranger.
Vous le connaissez bien, votre oncle?
Ben oui, c'est le plus jeune frère de ma mère. Il est si beau, si gentil.
Je voudrais prendre une photo de votre chambre. La chambre idéale de la jeune fille idéale.
Oh, ma chambre est toute simple. Et puis, il ne faut pas déranger mon oncle.
Bien sûr, bien sûr.
Il m'a dit qu'il ne voulait pas être dérangé, qu'il voulait dormir.
Et vous croyez vraiment que votre oncle est encore là, dans votre chambre, et qu'il dort?
Bien sûr, que voulez-vous dire?
Ceci. S'il dort, nous pouvons faire une photo sans le réveiller, et il ne s'apercevra de rien. S'il ne dort pas, nous ne pouvons pas le réveiller, n'est-ce pas? Et s'il n'est plus dans la chambre?
Mais puisque je vous dis que mon oncle est là et qu'il se repose, est-ce que vous faites un reportage ou une enquête?
Oh, voulez-vous que l'on dise que la jeune fille américaine idéale est un peu obstinée et pas très complaisante?
Bon. Oncle Camille. Oncle Camille. Peut-on entrer?
Je crois bien que j'avais raison.
Oh, je me rappelle maintenant. Oui, je me rappelle. Il a dit qu'il irait de bonne heure à la banque.
Mais la banque n'ouvre pas avant 10 heures. Il est 9 heures à peine maintenant.
Enfin, il est peut-être allé faire une promenade.
Ça me paraît plus vraisemblable.
C'est drôle qu'il puisse agir ainsi.
Peut-être ne connaissez-vous pas votre oncle aussi bien que vous le croyez.
Qu'est-ce que vous voulez insinuer encore?
Oh, rien, rien, rien encore. Maintenant, la photo. Et descendons, voulez-vous?
Monsieur, monsieur, si vous voulez voir la cuisine maintenant, vous pouvez y entrer.
Merci, madame, merci bien. Mais je crois que j'aperçois monsieur votre frère, ce jeune homme là-bas, qui se cache derrière le garage.
Oncle Camille! Oncle Camille, sauvez-vous!
Me sauver? Pourquoi? J'aime les journalistes. Et j'ai horreur des photographes. Je me vois dans l'obligation de vous demander de me remettre ce rouleau. J'insiste formellement. Donnez-le-moi immédiatement.
Pas touche, oncle Camille.
Le rouleau, vite.
C'est bon. C'est bon. Je vais vous le donner. Tenez. Le voilà.
Mademoiselle Camille, il faut que je vous parle. Tenez, asseyez-vous ici, sur ce banc, près de la fontaine. Nous pourrons bavarder à notre aise.
Je ne veux pas vous écouter. Vous n'êtes pas un journaliste. Vous avez menti à ma mère. Vous vouliez juste entrer chez nous, menteur.
Camille, il faut que vous m'écoutiez. Il faut que vous ayez confiance en moi. J'ai été obligé d'agir comme je l'ai fait. Tout n'est pas facile dans mon métier, vous savez.
Je hais votre métier.
Et pouvais-je prévoir qu'en recherchant un criminel...
Un criminel?
Pouvais-je prévoir que j'allais me trouver en présence d'une famille aussi unie, aussi respectable?
Qu'est-ce que vous racontez? De quel criminel voulez-vous parler?
Oh, nous ne sommes pas certains encore d'être sur la bonne piste. Je dois attendre que la police de New York ait identifié la photo que je lui ai télégraphiée, celle que j'ai prise de votre oncle ce matin.
Vous la lui avez rendue?
Oh non, je lui ai rendu un rouleau de pellicule hier, j'ai gardé l'eau.
Encore un de sales trucs de policier. Oh, je vous hais, je vous hais.
Camille, calmez-vous.
Mon oncle a rien fait de mal. Il est bon, il nous aime. Il sait bien cela, tu es maman. Allez-vous-en. Laissez-nous en paix, allez-vous-en.
Camille, j'ai besoin de vous. Vous devez m'aider. Réfléchissez bien. Que savez-vous de votre oncle?
Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Je l'aime, je l'aime.
Je suivis les yeux de la pauvre Camille qui s'enfuyait, horrifiée à l'idée que son oncle était peut-être le criminel que nous recherchions. Je la vis s'arrêter, changer de direction et courir vers un grand bâtiment de l'autre côté du square. Je l'y suis. C'était la bibliothèque municipale.
Est-ce que vous avez le journal d'hier avec l'air de Santa Rosa?
Comment, Camille? Vous avez besoin de venir chez nous pour lire le journal? Vous ne recevez donc plus à la maison?
Oh, si mon papa l'a acheté par mégarde, il y avait dedans une recette.
Oh, tenez, le voici. J'espère que vous y trouverez votre recette. Et vous serez bien gentil de remettre le journal à sa place quand vous aurez fini, n'est-ce
oui.
pas?
Oui, merci, merci, madame.
Maintenant, la petite Camille avait en main un numéro du même journal dont son oncle avait la veille déchiré une page. Il me semblait entendre son inquiétude, sa peur, à l'idée qu'elle allait découvrir une part de l'horrible vérité.
Oh, je trouverai, je trouverai. Ça ne peut pas être si grave. Oh. Oh. Meurtrier recherché. La police bat le pays entier à la poursuite de l'homme qui a étranglé Thelma Chenley. Les bijoux de la victime ont disparu, parmi lesquels une émeraude.
Je pouvais voir l'affreuse révélation se marquer sur le visage de Camille. Je m'approchai d'elle.
L'homme est recherché également pour le meurtre deux autres veuves fortunées. Le fugitif n'est connu que sous le sobriquet de l'assassin de la veuve joyeuse.
Camille s'était évanouie. Je m'empressai auprès d'elle. Elle était glacée. Après quelques instants, elle revint à elle.
Oh, les initiales, les initiales. C'est lui. Il a volé. Laissez-moi. Laissez-moi.
Et avant que j'aie pu la retenir, Camille s'échappa de la bibliothèque.
Je ne sais plus combien de temps je marchais. J'étais frappée de stupeur. J'essayais de me persuader que tout cela n'était pas vrai, que ça n'avait rien à voir avec mon oncle. Les yeux avaient cette bague et ses initiales à demi effacées. Les initiales de Thelma Chenley qu'il avait assassinée. T.S., 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 oh, assez, assez, assez. Comme je passais devant le square.
Camille.
Je pressais le pas, mais il me rejoignit, alors j'eus vraiment peur.
Pas si vite, Camille, j'ai à te parler, viens.
Non.
Viens, je te dis de venir avec moi.
Donc vous me tordez le poignet encore.
Voilà, écoute-moi. Faut pas m'en vouloir, Camille, je suis un peu nerveux, mais je ne peux pas supporter qu'il y ait aucun malentendu entre ma jeune nièce et moi. Dis-moi, Camille, dis-moi. Est-ce que ce journaliste a dit quelque chose contre moi?
Non, non, rien.
Alors pourquoi me regardes-tu ainsi? Je ne comprends pas. Quelquefois, tu sembles si heureuse d'être avec moi, puis à d'autres moments, tiens, comme en ce moment, tu sembles avoir peur. Pourquoi? De quoi as-tu peur, ma petite Camille?
Je n'ai pas peur. Mais je n'entends plus vos pensées comme avant. Tout est brouillé. Avant, c'était comme si on n'avait qu'un seul cœur, vous et moi. Comme si les distances et les silences et tout ce qui semblait nous séparer nous réunissaient au contraire. J'entendais chanter vos pensées, je pouvais deviner les battements de votre âme à des milliers de kilomètres. Et maintenant...
Et maintenant?
Maintenant... Maintenant, je sais. Oui, je sais que vous avez tué. Je regarde vos mains, j'aimais, quand elles caressaient mes cheveux. Vos mains qui ont tué. J'aimais vos yeux quand ils rencontraient mes yeux. Vos yeux qui ont tué. J'aimais que vous ressembliez à ma mère qui mourrait si elle savait que vous avez tué.
Camille, tu n'es qu'une petite exaltée. Je te laisse parler, mais tu ne sais plus ce que tu dis. Ton imagination te jouera un vilain tour, Camille, si tu n'es pas plus raisonnable.
Et cette bague, votre bague, sa bague. Tenez, j'avais juré de jamais m'en séparer. Mais maintenant, je vous la rends. Elle brûle ma main. Reprenez-la. Et laissez-moi. Laissez-moi.
Ah non, Camille. Maintenant, j'ai besoin de toi. Il faut que tu me comprennes. Tu crois tout savoir, hein? Tu crois lire dans les pensées des autres, entendre les battements de cœur des autres, pauvre petite folle. Qu'est-ce que tu sais de la vie? De ce qu'elle apporte? Et de ce qu'elle refuse? Rien. Tu ne peux pas comprendre. Et tu comprendras si tu m'écoutes.
Non, laissez-moi. Laissez-moi. Vous me faites mal.
Écoute-moi.
La vie, moi, je ne la crée pas. Je la détruis. Il y a des gens qu'il faut que je prenne leur vie, que je leur arrache cette sale vie qu'ils ne méritent pas. Ces femmes, ces milliers de femmes inutiles auxquelles des maris morts ont laissé le souvenir de leur sueur, de leur fortune volée. Ces veuves, ces ignobles veuves qui boivent leur jeunesse perdue dans des palaces de luxe, qui puent leur argent extorqué sous leur parfum, leur fard, leur pommade. Elles sont si laides, si lourdes, ces vieilles veuves joyeuses. Tu comprends maintenant, ma jolie petite camarade.
Oh, taisez-vous, taisez-vous. Vous êtes un monstre. Laissez-moi.
Et ouais, tu ne comprends pas. Et pourtant, toi seul peux m'aider. Je suis si là, Camille, si fatiguée. Il faut que tu m'aides. Tu avais raison, ma chérie, il y a plus. Il y a bien plus qu'un lien de sang entre toi et moi.
tu es moi-même.
Tu es tout ce que j'ai de bon en moi. Tu es le seul bon que j'ai en moi. Ne m'abandonne pas, Camille.
Il faut partir, mon oncle. Il faut que vous disparaissiez. Il ne faut plus que je vous voie. Plus jamais, jamais, jamais.
Mademoiselle Camille.
Que voulez-vous?
Il faut que je vous parle au sujet de votre oncle.
Eh bien?
Il faut que vous me disiez ce que vous savez immédiatement.
Je ne sais rien.
Il faut parler, il le faut pour votre bien, Camille, croyez-moi.
Je ne sais rien, je ne sais rien.
Si vous m'aidez, Camille, je pourrais vous aider, moi aussi.
Que voulez-vous dire?
Si vous me dites ce que vous savez, je vous laisserai le temps nécessaire de le persuader de s'en aller. Et je lui laisserai le temps de partir. Il ne faut pas que quoi que ce soit arrive ici, chez vous. Vos parents ne s'en remettraient pas. Aidez-moi.
Il s'en ira. Je vous le promets.
Alors parlez.
Quand partez-vous?
Pas en plus de ça, Camille.
Quand partez-vous?
Mais je ne pars pas, on est bien ici en famille.
Non, vous ne pouvez pas rester.
Mais si. Et même le mieux que tu puisses faire, c'est d'être mon ami. Je peux faire beaucoup de choses pour toi et pour tes parents. J'ai de l'argent.
Non, nous ne voulons rien de vous. Rien. Quelquefois, j'ai envie de tout dire à maman.
Tout dire? Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Qui te croirait? Parce qu'un air de vase se trotte dans la tête et que tu n'aimes pas des initiales gravées dans l'anneau d'une bague et que tu mêles tout ça à un article ridicule dans un journal. D'ailleurs, tu ne l'as plus, cette bague. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Je crois même qu'il n'y a jamais eu de bague.
C'est vous qui l'avez.
Moi? De quelle bague parles-tu?
Il faut partir, oncle Camille. Je ne veux plus vous voir regarder ma mère. Je ne veux plus vous entendre lui parler. Partez. Partez ou sans cela, je vous tuerai. Vous m'entendez? Je vous tuerai. Je vous tuerai. Je vécus alors quelques jours horribles. J'étais dans une terreur constante. J'avais peur. Peur de lui, peur de moi-même, peur de tout. Il fallait que je retrouve la bague, que je la lui reprenne. Alors peut-être pourrais-je encore tenter de l'obliger à partir, à quitter la ville. Je pourrais alors lui faire comprendre que j'aurai en moi assez de volonté, de force, de courage pour le dénoncer. Un soir, après le dîner auquel maman avait prié quelques amis pour leur présenter son frère, je m'échappais de la salle à manger. Je montais dans sa chambre, pendant que mon oncle charmait nos invités.
Un peu de champagne, révérend Philippe?
Oh non, merci.
Une larme. Vous savez bien ce qui est écrit dans la Bible. Le vin rend joyeux le cœur de l'homme.
Le don généreux que vous avez fait à notre petite église nous réjouit pleinement. Et peut-être ne suis-je pas aussi familier que vous avec certains passages de la Bible.
Permettez-moi de boire au moins à votre santé, mon cher révérend, à celle aussi de tous vos fidèles paroissiens. Tiens, voilà notre petite Camille. Où avais-tu disparu, ma jolie nièce?
Je croyais avoir perdu ma bague.
Ta bague? Quelle bague?
La belle émeraude avec l'inscription gravée à l'intérieur. Comme un secret. Comme un secret pour nous deux tout seuls. Regardez, révérend, la jolie bague que mon oncle m'a donnée. C'est un cadeau d'adieu.
Un cadeau d'adieu? Que veux-tu dire? Camille, tu nous quittes?
Je ne voulais pas te le dire, mais...
Maman, oncle Camille ne voulait pas te faire de peine. Mais il est obligé de partir. Il me l'a dit à moi. Il faut qu'il parte. Il le faut.
Est-ce si urgent?
Quand reviendras-tu?
Je ne sais pas, j'ai reçu un message important. Il faut que je prenne le premier train demain matin. Mais je veux que vous sachiez que je penserai toujours à votre petite ville, comme à un lieu plein de bonté et de tendresse.
Nous étions si heureux de t'avoir avec nous. Tu nous reviendras, n'est-ce pas?
J'emporterai demain plus qu'un beau souvenir. J'emporterai avec moi tout ce que j'ai de bon en moi. Tu me comprends, toi, ma petite Camille?
Ton train qui arrive.
Merci encore pour votre don à l'hôpital. Nous ne vous oublierons pas dans nos prières.
Merci, merci.
Monte, je vais te passer tes valises.
Merci. Voilà. Camille, viens m'embrasser. Monte, ma chérie.
Attention, Camille, le train va partir.
Mais non, nous avons encore une grande minute. Une éternelle grande minute. Embrasse-moi bien fort,
Camille. Je ne voudrais pas. Laissez-moi, mon oncle. Laissez-moi.
Non, non, laisse-moi t'embrasser. C'est un baiser d'adieu. Tu ne peux pas me refuser un baiser d'adieu, ma chère petite nièce.
Lâchez-moi, lâchez-moi.
Mais non, je t'emmène, tu sais bien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être bon, moi aussi.
Laissez-moi. 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 Laissez-moi.
Sauvez-moi!
Pas encore, il faut que je vienne vite. Plus vite. Très vite. Vite. Plus vite.
C'est moi.
Très vite. Tu comprends, Camille, que c'est trop de choses. Trop de choses. Beaucoup trop de choses.
C'est moi.
Voilà l'autre train. Tu vois comme c'est simple. L'autre train va t'emporter, ma petite Camille. Il va t'emporter pour toujours. Encore une seconde. Juste assez pour te dire adieu. Adieu pour toujours.
Non! C'est moi qui l'ai tué.
Non, Camille, vous ne l'avez pas tué, vous l'avez sauvé d'un autre crime.
Je l'ai poussé de toutes mes forces, de toutes les forces de mon amour et de ma peur.
Ne pleurez pas, Camille. Vous avez sauvé votre famille. Maintenant, il faut vous sauver de vous-même et oublier.
Oublier. Oui, il faut oublier. Il faut absolument oublier. Maintenant, c'est fini. Je ne l'entends plus. Je ne l'entendrai jamais plus.
À présent, tout commence. Il faut me laisser vous aider, Camille.
Oh oui. Aidez-moi. Aidez-moi. Maintenant, la vie commence.
La Voix de l'Amérique vous a présenté une adaptation radiophonique du film Universal, L'ombre d'un doute, avec Jean-Pierre Aumont et Michel Morgan.
Ce programme vous a été présenté de Hollywood par La Voix de l'Amérique. Adaptation de Pierre Schwab. Musique, Serge Glickson. Réalisation radiophonique de Gérald Kim.
C'était la Cinémathèque de France Culture. Les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma à partir des archives de l'INA. Une série d'émissions choisies par Julie Borghel, présentée par Anne de Biran, en collaboration avec Blandine Masson, Céline Geoffroy et Marie Simon. Restauration des émissions Jean-Marc Potry, à la technique Morgane Danan, réalisation Mydia Portis-Guérin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de franceculture.fr. Dimanche prochain à 20h, Jour de colère de Karl Dreyer et Yvan le Terrible de Serge Eisenstein.